Avec Cleanance Comedomed Peeling, dès le premier jour, ma peau est déjà plus clean. Résultat ?
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand. Notre invité du jour s'appelle Pierre Mikhaïlov, il vient de publier aux éditions Héliopole Morgane son sixième roman. Et il a publié en 2025 L'année du Teckel, un roman parodique que j'ai pour ma part beaucoup aimé, toujours aux éditions Héliopole. Pierre Mikhaïlov a un véritable univers romanesque. Son métier de critique musicale lui permet peut-être de se mettre au diapason de ses personnages et d'adopter d'emblée la bonne tonalité. Ses romans se lisent d'une traite un peu comme des polars américains ou comme des nouvelles de Marcel Aimé. Mais c'est à vous de découvrir l'humour, un rien décalé de cet écrivain buissonnier, assurément un réfractaire à l'esprit moutonnier et un flâneur invétéré du bitume et du macadam. Bref, voici un authentique romancier qui, j'en suis sûr, vous embarquera immédiatement dans ses traversées de la vie. Pierre Mikhaïlov, bonjour.
Bonjour. Bonjour Valère.
Vous venez de publier Morgane aux éditions Héliopole Littérature, donc ça c'est un deuxième roman parce que vous aviez publié un autre roman aux éditions Héliopole, L'année du Teckel, je pense que c'est en 2025.
Hein. Exactement, 2025, exactement.
Et donc là on va commencer par parler de Morgane. Donc Morgane et L'année du Teckel, ce sont deux romans qui sont parus dans la collection Littérature des éditions Héliopole. Alors Pierre Mikhaïlov, vous avez vraiment, vous êtes romancier, mais alors vous avez plein de cordes à votre arc, hein, vous qui êtes guitariste, ça tombe bien. Alors vous êtes écrivain, journaliste, biographe, critique musicale et même scénariste. Et il semble que l'écriture et la musique soient deux mots clés dans votre parcours. Est-ce que finalement, moi je me suis posé la question, pour ça que je vous interroge un peu sur votre parcours, est-ce que votre parcours finalement ne ressemble pas à celui de vos personnages, Pierre Mikhaïlov ?
Alors, oui, il y a forcément un petit peu de moi dans mes personnages. Ça dépend de quel personnage vous parlez en particulier.
C'est un peu les narrateurs. Je pense à celui pour L'année du Teckel. Le narrateur qui est quand même un journaliste, qui est un freelance, qui est comme vous.
Oui, alors effectivement, pour L'année du Teckel, comme par hasard, le personnage principal, le narrateur, est un journaliste freelance qui se bouscule un peu, se secoue un peu pour rendre ses articles à temps. Ce qui est toujours la hantise du journaliste, c'est de rendre ses papiers dans les délais avec le rédacteur en chef qui envoie des petits mails de temps en temps pour savoir si ça avance, s'il aura bien son papier à temps. Donc ça, c'est la petite angoisse du journaliste que j'ai traité dans L'année du Teckel de façon un peu humoristique. Et contrairement au narrateur, moi j'arrive à rendre mes articles à temps. Parce que le narrateur du Teckel est évidemment, sa vie est empoisonnée par deux amis ou faux amis qui vont squatter chez lui un peu trop longtemps.
Et oui, voilà.
Avec un teckel.
Alors votre parcours, oui, quand même, vous avez été guitariste, vous avez fait partie d'un groupe, les Désaxés. Alors ça s'invente pas. Je crois que c'était en juin 1982. Racontez-nous un peu cette expérience. Est-ce que cette expérience a changé aussi votre écriture par la suite, la nourrit? Vous avez commencé quand même par la musique.
Oui, alors j'ai commencé par la musique. Effectivement, en 82, je rejoins ce groupe qui s'appelait les Désaxés, dont on commençait un peu à parler sur Paris et qui a commencé à avoir un petit peu de presse dans des magazines comme Rock and Folk par exemple. Et je vois une petite annonce passer et cette petite annonce annonçait que les Désaxés cherchaient un guitariste. Et je les contacte, on se voit. Alors là, ce qui était important à l'époque, c'était les disques qu'on écoutait. Donc la première chose qu'ils ont faite, c'est de passer en revue ma discothèque et de voir si j'avais les bons disques, les bonnes références, comme tout allait bien de ce côté-là. Après, ils m'ont demandé de jouer de la guitare et ça s'est bien passé aussi pour la petite audition. Et ça, tout s'est enchaîné très vite parce que une semaine après, il y avait des concerts à faire. Donc j'avais une semaine pour apprendre leur répertoire et c'était un concert important parce que c'était la première partie du guitariste des New York Dolls, Sylvain, un New-Yorkais qui était de passage à Paris, et il fallait faire sa première partie au Gibus. Donc pour nous, c'était un peu magique parce qu'on était tous des fans de ce groupe, les New York Dolls, qui avait été finalement un groupe météorite qui s'était séparé au bout de deux albums en 74, mais qui a finalement influencé tout le mouvement punk. Donc c'était des personnages légendaires qui étaient totalement losers, qui n'ont jamais vendu beaucoup de disques. Et le pauvre Sylvain, il tournait à travers le monde avec sa femme à la batterie et puis un bassiste. Et en fait, on a réalisé qu'il était complètement dans la dèche, quoi, alors que pour nous, c'était un héros suprême. Donc ça, c'était aussi une des réalités du milieu musical qu'on a découvert petit à petit. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'au bout d'un an de concerts un peu à droite à gauche en France, on a eu la chance de signer sur un label qui s'appelait Reflex. Et là, on s'en entre en studio et on sort un premier 45 tours. Donc l'aventure commençait. Voilà, l'aventure était sur ses roues.
Et oui, alors en 90, vous avez croisé la route de Jacquenot, avec lequel vous entreprenez une longue collaboration. Vous travaillez aussi avec des cinéastes proches de l'art contemporain, comme Philippe Parrainot ou Charles Demeau, et vous participez toujours avec Jacquenot au mémorable concert anniversaire des 40 ans de Rock'n'Folk au Bataclan. Donc votre vie est faite de rencontres.
Mais c'est ça qui est magique, c'est les rencontres, et c'est que je cherche pas vraiment, je suis pas quelqu'un qui démarre, je sais pas du tout me vendre, ou c'est toujours des histoires de rencontres. Si je suis arrivé chez Héliopole, c'est parce que Philippe Lacoche, qui est publié chez Héliopole, m'a dit tiens, je te donne le téléphone de Zoé Leroy, appelle là, parce que je cherchais un éditeur à l'époque pour l'année du Tekel. Et ça s'est toujours passé par des rencontres. Alors Charles Demeau, le réalisateur avec qui j'ai fait une BO pour un de ses longs métrages, plus d'autres pour des courts métrages, c'est aussi une coïncidence. C'est-à-dire qu'il travaillait à l'époque avec un guitariste qui faisait ses BO pour ses courts métrages, qui s'est cassé le poignet. Ce guitariste était un copain à moi et me dit: Pierre, est-ce que tu peux me dépanner? Je travaille avec Charles Demeau, on fait une musique pour un petit 5 minutes, là, tu peux venir faire les guitares. Et je rencontre Charles Demeau et on a bossé ensemble pendant 10, 15 ans, je sais pas, j'ai pas compté. Mais voilà, c'est toujours des rencontres. Jacquenot, c'est pareil, c'est par un producteur qui s'appelle Vincent Frérebeau qui a monté le label Tôt ou Tard et qui déjeunait avec Jacquenot, ou plutôt qui dînait, parce que Jacquenot, c'était pas quelqu'un du matin, donc c'était plutôt un dîner tardif. Et Jacquenot lui dit qu'il cherche un guitariste et Vincent lui note mon numéro de téléphone sur son paquet de gitane. Il oublie ce paquet de gitane dans une veste pendant quelques mois et à un moment donné, il ressort cette veste de son placard. Il voit le paquet de gitane avec mon numéro de téléphone et donc Jacquenot m'appelle. Et là, c'est pareil. L'audition chez lui était assez marrante, un petit peu dans le style de l'audition avec les désaccès, mais un peu différente. Donc j'arrive en début d'après-midi. Là, c'était l'heure où il se levait. Il prenait son petit déjeuner avec une bonne bouteille de Bordeaux, des gitanes et des croissants. Et donc, on discute un peu et il me dit: tiens, prends la guitare et montre-moi un peu là ce que tu fais. Et je prends sa guitare et immédiatement, je vois qu'elle est accordée en mi. Et donc, je joue comme on doit jouer sur une guitare qui est en open tuning. Et c'est ce que faisait toujours Keith Richards. Et comme Jacquenot était un grand fan de Keith Richards, il s'accordait toujours avec ce genre d'open tuning. Il a vu que je connaissais la combine et il me fait: ok, tu es pris. Voilà, ça a pris. Et puis maintenant, buvons un coup. Voilà, ça a commencé comme ça, mon aventure avec Jacquenot. Donc voilà, toujours des rencontres intéressantes, amusantes et qui amènent d'autres rencontres.
Alors oui, alors vous avez rejoint, intégré l'équipe de Rock'n'Folk. Je crois que c'est avec que vous avez rencontré Philippe Manœuvre.
Oui, alors Philippe Manœuvre, c'est pareil, je le rencontre à Perpignan. On était invité à un festival qui réunit des amateurs de disques, de vinyles et de musique et de livres sur la musique. Philippe Manœuvre était invité, Et puis, il y avait plein de gens de métal hurlant aussi, donc une bonne équipe intéressante à fréquenter. Et je pense qu'on a eu un bon rapport avec Philippe, puisque quand je suis rentré à Paris, quelques semaines plus tard, il m'appelle et il me demande de faire un article dans Rock'n'Folk. Et il conclut l'appel par « Welcome à bord ». Donc j'ai trouvé aussi cette invitation sympathique de passer un pied à bord de cette estimable revue historique.
Alors en 2003, vous avez commencé à recueillir des notes qui constitueront le corps de Somme Cliché, une enquête sur la disparition du rock'n'roll, un recueil de nouvelles baigné de culture rock et qui est paru en février 2006. Alors en fait, comment s'est passé un peu votre passage de la scène à l'écrit, l'espace assez court de la nouvelle au roman, enfin comment, parce qu'on voit que c'est par étapes, hein, votre parcours.
Oui, alors pendant longtemps j'essayais d'écrire des nouvelles, mais j'avais pas compris que en fait le problème que j'avais, c'est que je travaillais pas assez. Je faisais une première mouture comme ça d'une nouvelle, ça me paraissait pas mal et je n'y revenais pas. Et j'ai compris au bout d'un moment, mais je dois être un peu lent à comprendre les choses, parce qu'il m'a fallu du temps pour comprendre que finalement l'écriture, ça passe par des étapes de relecture, de temps de pause, d'y revenir, de retravailler, de relire, de demander des avis extérieurs éventuellement. Et ça m'a pris du temps avant de comprendre ça. Donc il m'a fallu du temps avant publier ce premier recueil de nouvelles. Mais en fait, la première chose que j'ai écrite et qui sera publiée plus tard, c'est un recueil de poèmes qui sera publié plus tard au dernier Télégramme, qui s'appelle Au son des Remington. Et là, c'était tout simplement parce que j'avais un ordinateur à l'époque pour faire de la musique, un Atari, et je me suis aperçu qu'il y avait un logiciel, un Word, une sorte de logiciel de équivalent de Word sur cet ordinateur. Et à l'époque, j'étais assez malheureux parce que j'avais été quitté par une jeune fille avec qui j'étais resté très longtemps. Et une nuit comme ça où j'arrivais pas à dormir, j'ai commencé à raconter notre histoire d'amour du début à la fin sous forme de poème en prose, parce que j'étais assez inspiré par Richard Brautigan à l'époque, ce genre de poète américain californien. Et ça, ça a dormi pendant des années. Et c'est plus tard, en rencontrant Fabrice, le fondateur des éditions du dernier Télégramme, que j'ai retrouvé une disquette de cet Atari que j'ai réussi à convertir sur un PC. Et j'ai envoyé ça à Fabrice et il a décidé de le publier au dernier Télégramme. Donc ça, c'est vraiment la première chose que j'ai écrite et qui fut publiée. Et le recueil de nouvelles, c'est parce que je sentais que la musique, ça devenait très compliqué. Même le long métrage que j'avais fait avec Charles Demeaux, qui s'appelait Shimken Totel, en fait, on avait bossé plus d'un an dessus. Le film sort dans deux salles à Paris, et deux semaines après, il était retiré des écrans. Et c'est ce genre de choses qui avait fini un petit peu par m'écœurer de travailler énormément sur un projet et qui passait complètement inaperçu. Et donc, j'ai fait une pause par rapport à la musique. J'étais complètement broke, comme on dit en anglais. J'avais plus un sou. J'avais plus un sou parce que la musique, ça rapporte pas beaucoup d'argent, surtout quand on travaille un an sur un projet qui finalement était sur une économie très fragile. Et donc là, j'ai fait un boulot assez alimentaire et rémunérateur pendant quelques mois, ou même peut-être même pendant quelques années, mais qui était fort ennuyeux. Et là, j'ai eu le sentiment que si j'allais continuer dans cette voie, j'allais dépérir intellectuellement, et puis peut-être même dépérir tout court, parce que je fumais énormément, je m'étais mis aussi à picoler pas mal parce que je m'emmerdais dans ce boulot, et puis c'était un boulot où c'était dans la pub, dans la communication, et on picolait beaucoup, etc. Donc c'était un milieu assez toxique finalement. Et là j'ai commencé à écrire, et je me levais à 5h du matin avant d'aller bosser, et j'écrivais, et puis je rentrais le soir et j'écrivais. Et c'est devenu ce premier recueil de nouvelles, Somme Cliché, où j'estimais que commencer par des nouvelles, c'était plus simple que de me lancer directement dans un roman. En plus, j'avais un concept, c'était de prendre une vingtaine de chansons qui avaient été importantes dans mon parcours et d'écrire une nouvelle inspirée par chacune de ces chansons. Et en écrivant ce recueil, je savais qu'il serait publié. Je faisais pas ça pour me distraire, c'était un truc vital pour moi. C'était une question, entre guillemets, de vie ou de mort. Et je savais qu'il serait publié, que quel que soit le chemin que ça prendrait, je trouverai un éditeur, et c'est ce qui s'est passé.
Est-ce que vous avez écrit des paroles de chansons ?
Ouais, alors à l'époque des Désaxes, j'avais écrit des paroles de chansons. J'en ai écrit pour moi aussi qui sont restées inédites. Et puis, il y a quelques années, j'en ai écrites aussi pour une chanteuse belge qui avait fait un album avec un compositeur de Liverpool et il fallait des textes en français. Je lui avais fait un texte, mais sinon, j'en ai écrit assez peu des textes de chansons.
Alors, toutes ces vies, est-ce qu'elles ont nourri votre travail de romancier ? Moi, je pense que oui. On va parler de Morgane. Morgane, c'est le nouveau roman qui vient de paraître aux éditions Héliopole. Moi, je dirais, c'est comme aussi une grande novella, c'est une grande nouvelle. Enfin, on sent que l'art de la nouvelle, vous en avez gardé quelque chose.
Oui, c'est un roman au rythme rapide. On pourrait dire que c'est presque un 45 tours ou un maxi 45 tours. L'histoire va très vite. Les personnages sont tous un peu speed, sont tous un peu énervés. Ils sont tous en quête de quelque chose, donc ça va très vite, ouais, effectivement.
Alors Morgane, ça rappelle la chanson de Renaud, mais en argot, ça veut dire morganer, c'est manger, c'est être mordu de quelqu'un, c'est être amoureux. C'est vrai, c'est une histoire d'amour, on peut dire à multiples rebondissements, si on peut parler d'amour, enfin de prédation, ça c'est certain.
Oui, alors je ne sais pas du tout pourquoi j'ai choisi ce prénom Morgane, il est venu, c'est imposé, il s'est imposé de lui-même. Alors c'est un petit peu l'histoire de Lolita à l'envers, hein. Si on se rappelle de l'histoire de Lolita, c'est un homme pervers, pédophile sur les bords, même carrément pédophile, qui tombe en pamoison devant une jeune fille et il trouve comme moyen de la séduire, d'épouser la mère qui est sa logeuse. Coup de chance pour lui, la logeuse va passer sous les roues d'une voiture. Hein, donc il a vraiment beaucoup de chance, cet Humbert. Et il part à la dérive avec cette Lolita, qui s'appelle Dolores en vérité. Et l'histoire de Morgane, c'est un petit peu l'inverse. Elle est là, un petit copain, un amant un peu volage, même très volage. Et c'est sa mère qui va lui voler cet amant. Donc Morgane est quelqu'un qui travaille au rayon livre du BHV. Et elle tombe un jour en rangeant les bouquins, elle tombe sur Lolita de Nabokov et elle le lit. Elle s'aperçoit que c'est son histoire à l'envers. Et Lolita revient à plusieurs reprises dans le livre parce qu'elle réfléchit à ce qu'elle est en train de vivre en repensant souvent au bouquin de Nabokov.
Alors bon, il y a une citation qui est mise en exergue de votre roman, Pierre Mikhaïlov. À la question de la grenouille, le scorpion répondit que c'était dans sa nature. Pourquoi cette citation ? Moi, je la trouve énigmatique.
Alors, cette citation, parce que c'est le personnage, exactement, ça correspond au personnage de Stan Cox, qui est aussi un personnage important du roman. C'est ce personnage qui est la raison qui pousse la mère de Morgane à revenir en France. Alors, sa mère se fait appeler Inès, mais en fait, s'appelle pas du tout Inès. C'est une banlieusarde qui avait la chance d'être... de correspondre aux critères nécessaires pour devenir top modèle, donc qui a fait sa carrière à New York, qui s'est pas du tout occupée de Morgane. Elles ont dû se rencontrer deux fois ou trois fois en 19 ans. Ce sont de parfaites inconnues. Et ce top modèle ou ex-top modèle sur le retour a confié son argent à ce Stan Cox, qui est un escroc international. Et évidemment, elle n'a jamais revu cet argent. Donc pour moi, le scorpion du livre, c'est ce Stan Cox qui a un rôle important aussi dans ce livre.
Alors, c'est Christine Moreau, donc c'est Inès Van Krug, je crois, et vous présentez, alors c'est marrant, parce qu'en fait, vous évoquez d'emblée la notion de date de péremption d'un personnage, ça j'ai bien aimé. Frappé d'obsolescence non programmée, ses économies réduites à néant à la suite d'un placement imprudent, Inès Van Krug est rentrée en France, où elle est devenue Christine Moreau, avant de mourir une seconde fois, cette fois pour de bon. Présentez-nous un petit peu vos personnages. Alors, il y a Inès Van Krug, alias Christine Moreau, Morgane, sa fille, Julio, Miguel, il y a toute une brochette de personnages.
Hein. Oui, et puis vous oubliez un personnage important aussi qui est Stan Cox, et puis un autre qui arrivera plus tard, qui est Luc Felder, le rock critique. Ouais. Alors, Inès, c'est un top modèle qui a effectivement atteint sa date de péremption, puisqu'elle a passé 40 ans. En plus, elle ment un peu sur son âge. Et donc, la seule chose qui lui reste à faire, c'est la dernière marche du métier de top modèle, c'est d'être mannequin cabine, pour des dames aussi qui ont passé l'âge d'être des jeunes filles et qui vont acheter ces robes coûteuses après moult retouches pour correspondre à leur état de dame à l'âge un petit peu avancé. Elle rentre donc ruinée à Paris et elle s'incruste chez sa fille, où elle va un petit peu prendre ses quartiers et puis prendre aussi, en passant, l'amant de sa fille, qui est Miguel, un type que Morgane rencontre au BHV. Il vient acheter, il vient commander un bouquin. Qui est un bouquin de Thomas Pynchon. Il n'a pas du tout le profil pour lire ce genre d'auteur américain post-moderne, mais il est fatalement beau et Morgane s'amourache immédiatement de ce bel âtre qui finalement s'était trompé de titre de bouquin et ne voulait pas du tout acheter un bouquin de Thomas Pynchon. Mais elle se débrouille pour le revoir et le mettre dans son lit. Pour son malheur, puisque ce garçon va s'avérer être un amant assez déplorable et auquel il ne faut pas se fier, qui a un frère qui s'appelle Miguel, qui est aussi sous la coupe de ce Rulio qui fait pas grand chose de sa vie à part emprunter de l'argent, notamment à son frère Miguel. Et donc Miguel va disparaître assez rapidement de la vie de Morgane avec Inès, qui vont partir dans le sud.
On ne sait pas qui met le grappin sur qui.
Alors en fait, un soir, Rulio vient chercher Inès. Au départ, il vient chercher Morgane. Et là, il s'aperçoit qu'elle a une colocatrice. Et donc, Inès vient de finir une sorte de traitement. Elle s'est mis de la crème sur le visage là, pour rajeunir ou des choses comme ça. Et elle dit, tiens, tu as de la visite, mais qui donc fait le entrer, on va prendre l'apéro. Alors, immédiatement, Morgane sent le danger de prendre l'apéro avec Inès. Donc elle veut repousser Rulio vers Miguel. C'est Miguel.
Ah, ouais.
Je me perds dans les personnages. Donc elle veut repousser Miguel vers la sortie, mais lui, il aperçoit un bout de la jambe du top modèle et finalement il trouve que c'est une bonne idée de passer la soirée à la maison. Donc voilà, là le drame commence à cet instant.
Alors, le point commun entre vos deux romans, entre Morgane et L'année du Teckel, c'est l'inattendu de la vie, Pierre Mikhaïlov. C'est l'invité de la dernière heure. Peut-être que vous pouvez nous lire un premier extrait de Morgane, puisque nous parlons de Morgane. Nous avons commencé de parler de Morgane. Voilà.
Voilà, alors j'ai choisi quelques extraits comme ça pour présenter les personnages. Alors, bonjour maman, je te présente l'homme que je m'apprête à tuer. En fait, je n'ai pas vraiment prononcé cette phrase vu que les présentations étaient faites depuis longtemps. Et puis, dans ce genre de circonstances, on a l'esprit occupé à autre chose qu'à formuler des bons mots pour la postérité. Mais reprenons depuis le début. Je ne suis pas ce qu'on appelle un canon. Il faut être consciente de ses limites et je crois l'avoir toujours été. En grandissant, il y a des rêves que j'ai sagement mis de côté. En particulier, celui relatif au beau ténébreux, censé découvrir votre beauté cachée et vous enlever dans son carrosse, à moteur hybride, loin de votre quotidien foireux. C'est à peu de choses près l'idée que je me faisais du bonheur quand j'avais 10 ans. Trop de mauvaises lectures, sans doute. À vrai dire, personne ne m'a jamais traité en princesse. Aussi, cette phrase lue dans un roman dont j'ai oublié le titre résume assez bien ma philosophie de l'existence. Il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, seulement une boîte d'allumettes. Vous conviendrez que c'est toujours mieux que rien, une boîte d'allumettes. En guise de carrosse, j'ai plutôt connu des banquettes arrière de véhicules plus ou moins confortables et plus ou moins salubres, souvent moins, sans parler du monte-charge du BHV quand un dégât de la quincaillerie vous coince entre le premier sous-sol et le rez-de-chaussée pour une séance de plotage vite fait. Même avec beaucoup d'imagination, il faut reconnaître que mes princes ne ressemblaient pas à grand-chose. Tombée amoureuse, j'ai toujours considéré que c'était un peu comme si un beau matin, une météorite s'écrasait dans votre jardin. D'un côté, vous vous sentez flatté, ce foutu caillou aurait pu choisir 1 million d'autres jardins, mais non, c'est dans le vôtre qu'il a décidé de retourner quelques mètres cubes de terre. D'un autre côté, vous vous demandez « qu'est-ce que je vais bien pouvoir en foutre ?» En même temps, on ne peut pas dire que j'avais souvent eu l'occasion d'accueillir des météorites dans mon jardin. Pour être franche, avant de rencontrer Miguel Russo, je n'étais jamais tombée amoureuse. Et là, le mot est faible. Je devrais dire raide dingue. Il y avait de quoi en même temps. Ce n'est pas tous les jours que vous voyez débouler au rayon livre du BHV un beau mec, beau comme un dieu grec, qui vous demande si vous avez vent à la criée du lot 49 de Thomas Pynchon. Mais bon, t'es pas au bon endroit pour ce genre de littérature, mais pas question que je te laisse filer comme ça. Toute rougissante, je lui suggère de le commander et de me laisser un mail ou un numéro de téléphone. Là, je suis écarlate, au bord de la suffocation, afin que je le contacte dès qu'il sera arrivé. Juste avant qu'il ne reparte, je lâche une voix fluette. Moi aussi, j'aime Pynchon. Mais je ne suis pas sûr qu'il m'ait entendu.
Alors là, ça donne bien l'état d'esprit de votre livre, Pierre Mikhaïlov, de votre roman, c'est-à-dire c'est le malentendu, justement. C'est le roman de la désillusion. Alors, il y a le rapport, quand même, mère-fille. Alors ça, c'est fascinant. Enfin, moi, j'ai bien aimé. L'état catatonique de ma génitrice ne parvenait pas à m'émouvoir. J'espérais juste que ses troubles mentaux n'étaient pas héréditaires.
Ben oui, mais il n'y a absolument rien, aucun lien affectif entre les deux personnages. Inès a pensé toute sa vie à sa carrière de top modèle. Elle envoyait juste éventuellement une carte postale si elle se souvenait de la date anniversaire de sa fille. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre entre les deux femmes. Et puis, Morgane n'a pas du tout envie de faire plus ample connaissance avec ce personnage complètement vide qui n'est qu'apparence, qui n'a absolument aucune profondeur, aucune épaisseur et qui vient juste s'incruster dans sa vie et squatter son petit appartement. Donc le rapport est inexistant et il va empirer car du désintérêt au début de Morgane, il va commencer à elle voudrait oublier cette femme, mais cette femme n'arrive pas à se faire oublier parce que elle s'incruste dans la vie de sa fille, mais en plus elle lui vole son amant, ce qui fait que en plus de l'indifférence, après là cette phase d'indifférence, il va y avoir une sorte de haine qui va s'installer entre les deux femmes, de compétition aussi.
Oui, et puis je détestais l'entendre m'appeler ma chérie, ça sonnait tellement showbiz, tellement faux, entre ses lèvres trop pulpeuses pour être vraies, et il a fallu qu'elle recommence. Vos personnages sont souvent des incrustes, Pierre Mikhaïlov.
C'est vrai, autant dans le Tekel que dans le roman Morgane, il y a des personnages qui s'incrustent, des sortes de parasites dont on n'arrive pas à se détacher, des polypes qui collent au personnage principal.
On va faire une petite pause musicale.
I have tried.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous écoutez l'émission Bibliomanie. Aujourd'hui en présence de Pierre Mikhaïlov pour Morgane, son nouveau roman qui vient de paraître aux éditions Héliopole dans la collection Littérature. Et L'année du Teckel, personnellement c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, qui est paru un an plus tôt, je crois que c'était en 2025, toujours chez Héliopole dans la collection Littérature. Pierre Mikhaïlov, c'est vrai que vos personnages, c'est vraiment des incrustes, hein. On peut pas s'en détacher, c'est un peu comme le Teckel. C'est vraiment... vous avez un univers romanesque. C'est-à-dire il y a vraiment un paysage parisien. Il y a des personnages, c'est un peu comme le jeu des sept familles. Ils ont tous une parenté entre eux. On sent que c'est... Il n'y a pas un côté fratrie, mais presque.
C'est votre regard, en fait. C'est intéressant. Ça m'apprend aussi un petit peu des choses sur mes livres, puisque je ne suis pas forcément toujours conscient de ce côté fratrie et puis d'autres aspects. Je dois dire que c'est nouveau un petit peu pour moi de baser les histoires à Paris, parce que par exemple j'ai écrit un roman pour la manufacture de livres qui se passe aux États-Unis, comme beaucoup d'auteurs français, je pense, qui écrivent un petit peu dans des histoires criminelles. On est très influencé par des écrivains américains et puis par l'univers romanesque et cinématographique américain. Donc j'avais écrit ce bouquin qui se passait aux États-Unis, mais en essayant de pas avoir une écriture artificielle, de pas avoir l'écriture d'un Français qui écrirait sur les États-Unis, mais de vraiment m'imbiber de des lieux que je décrivais. Et puis finalement, je me suis dit pour ces deux derniers romans que le plus simple, c'est finalement de parler de ce qui m'entoure. Donc pour l'année du Teckel, par exemple, je suis pas allé très loin de chez moi. J'habite à Issy-les-Moulineaux et j'ai parlé du 15e arrondissement et puis un petit peu de Vanves aussi. Donc quelque chose de très local. Et pour Morgane, c'est pareil. En fait, la rue des Boulangers où habite Morgane, c'est une rue où j'ai habité pendant 19 ans. Donc tout le parcours que fait Morgane à Paris, le pub où elle donne rendez-vous à Miguel, c'est un pub où j'allais souvent passer de longues soirées à boire de la bière. Donc voilà, tous ces décors, je les connais par cœur et c'est assez amusant pour moi d'y retourner à travers ces personnages. Alors pour le côté fratrie aussi, c'est parce que finalement, on a tous un peu autour de nous comme ça des personnages qu'on choisit de voir, et puis des personnages qu'on ne choisit pas de voir mais qu'on est obligé de voir parce que ils sont là, parce qu'ils sont, ils s'incrustent, parce que il y a les casse-pieds voilà, donc on voilà, qui sont collants comme une sorte de scotch dont on n'arrive pas à se détacher. Donc c'est un petit peu ça mes personnages, effectivement.
Alors on parlait tout à l'heure d'Inès, hein, et de Morgane, enfin le rapport mère-fille catastrophique. On a tant de choses à se dire, non, je ne crois pas, pour moi tu n'es rien, tu n'existes pas, Inès, c'est juste le nom d'un caniche qui m'a tout l'air d'être dans la merde. Voilà, donc c'est toujours des personnages, c'est très contemporain, c'est très, parce qu'on a tous des familles qu'on se crée aussi, la famille de l'amitié. Il y a un côté pied nickelé chez vous, Pierre Mikhaïlov, il y a un côté aussi Nestor Burma, parce que ce quartier d'Issy-les-Moulineaux, Porte de Versailles, le 15e... C'est pour ça que je parle d'un univers romanesque.
Oui, alors pour ce qui est de la géographie, ouais, effectivement, comme je vous ai dit, j'aime bien me balader et physiquement dans Paris, et puis me faire aussi des promenades avec mes personnages dans ces quartiers que j'aime bien. Et puis pour le côté puniclé, là j'assume totalement, j'adore les personnages maladroits, et je me régale à voir des films où les personnages sont maladroits, des films, des comédies italiennes notamment, dont je raffole totalement, surtout qu'elles ont souvent un côté social aussi en arrière-plan qui est intéressant aussi. Donc puis j'aime bien la bande dessinée des pieds nickelés, qui sont trois anards qui n'arrêtent pas d'avoir des idées géniales, mais qui à chaque fois foirent, des cambriolages dont ils ressortent toujours encore plus fauchés qu'au début de l'histoire. Donc j'adore effectivement ce genre d'univers.
puis de jouer de malchance aussi. Alors, vous avez été, vous êtes un biographe, hein, je ne l'ai pas assez suffisamment dit, vous avez fait écrit une biographie sur Bachung. Et moi, votre personnage aussi, ça me rappelle une chanson de Bachung. Elle met le feu aux poudres, elle met le feu partout, Morgane. C'est un pétard, hein, ambulant.
Oui, je vois à quel personnage de Bachung vous pensez. Une certaine Gabi, ou un certain Gabi, on ne sait pas très bien, parce que quand Boris Bergman avait écrit les paroles de la chanson, il avait joué un petit peu sur l'ambiguïté, parce que voilà, Gabi, ça peut être un prénom masculin, mais après tout, féminin aussi.
Oui, alors, et puis alors, il y a Paris, qu'on retrouve aussi dans l'année du Tekel, Pierre Mikhaïlov, et il y a cet arrière-plan littéraire. Vous avez parlé donc de la vente à la criée de Matt Pynchon. Et puis, il y a aussi, vous parlez de Philip Dick, par exemple. Vous dites, finalement, j'ai attrapé un livre au hasard, Ubique, de Philip K. Dick, et parcouru la quatrième de couverture. Et par les trous du décor se glissent des messages d'Ubique. Ubique est partout. Ubique, qui est tout, mais qui est Ubique? Si Ubique partout, Miguel Russo est nulle part. Ça, c'est Morgane qui parle. Mais il y a, bien sûr, vous citez... Lolita de Nabokov, hein, ça c'est. Vous dites, elle dit, Morgane, mon histoire était le négatif de Lolita. Miguel avait séduit la fille, puis assouvi ses pulsions. Gérons ton fil avec la mère, gérons ton fil, car avec ses années de mannequinat qui comptait double et son métabolisme détraqué, Inès était un chef-d'œuvre en péril, en particulier le matin au réveil. Donc, il y a cet arrière-plan littéraire, influencé quand même littérature américaine, j'ai l'impression.
Oui, pas seulement, mais là, effectivement, les références, on ne peut pas le nier, là, dans ce livre, sont plutôt américaines. Alors, il ne faut pas oublier aussi que le personnage de Morgane est libraire. Voilà. Elle est libraire au BHV, donc elle a sans arrêt des livres entre les mains qu'elle lit. Et la petite référence à K. Dick, c'est déjà que c'est un auteur que j'adore. Et je venais juste de terminer de relire Ubique à l'époque. Et je me suis aperçu effectivement j'ai joué un petit peu sur le fait qu'Ubique est partout et que Miguel, lui, n'est nulle part dans la vie de Morgane lorsqu'elle voudrait qu'il apparaisse.
Et puis il y a aussi un côté, mais c'est peut-être plus dans l'année du Tekel, Pierre Mikhaïlov, de Marcel Aimé. Il y a un côté, cet univers-là, très décalé. Et il y a des interrogations aussi au fil des pages sur l'écriture, sur la littérature. Il y a cette question, quelle littérature écrire après le postmodernisme? Est-ce que ça vous traverse quand vous écrivez Pierre Mikhaïlov? Comment écrire actuellement au XXIe siècle?
Oui, alors ça c'est une phrase que Morgane avait prononcé un petit peu avec humour, parce qu'elle se rendait bien compte que c'était pas le genre de sujet qu'elle allait aborder avec son amant. En ce qui me concerne, effectivement, c'est les discussions que j'ai eues avec un auteur, un copain que j'ai pas vu depuis longtemps, qui s'appelle Frédéric Choraki, qui lui estime que tout a déjà été écrit. Et que nous, notre génération, mais on est quantité négligeable. On n'égalera jamais les grands qui sont inégalables. Et alors, je trouve que c'est une vision assez pessimiste que je partage pas tout à fait. J'espère qu'on, notre génération, puis les générations qui sont plus jeunes et qui arrivent, vont aussi apporter un petit quelque chose de plus à la littérature. Et je pense que au niveau des formes aussi, effectivement. Il faut déjà bien connaître ce qui a été écrit avant pour essayer d'inventer quelque chose. Je suis pas du tout un théoricien de la littérature. J'ai pas fait d'études de lettres, donc tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai lu, c'est toujours avec une approche autodidacte. Et la façon dont j'essaie d'avancer, c'est un petit peu avec ces petits bouts de connaissances que je picore à droite, à gauche, en essayant de trouver ma voix dans tous les sens du terme.
Il y a un côté ludique.
Il y a un côté ludique, oui, parce que ce que j'aime aussi dans la littérature, c'est l'humour. Par exemple, je lis beaucoup de nouvelles de Pirandello, et il y a des moments où j'éclate vraiment de rire, tout seul, avec le bouquin à la main. Et donc, c'est quelque chose aussi que je recherche dans la littérature, c'est l'humour. Et c'est souvent présent dans les auteurs américains, chez les auteurs américains que j'aime bien aussi. J'ai beaucoup lu Bukowski, et il y a aussi des nouvelles de Bukowski où le personnage est dans des situations tellement bizarres que je ne peux pas m'empêcher d'éclater de rire aussi. Donc c'est quelque chose que j'essaie de reproduire à ma façon dans mes livres.
Est-ce que c'est un peu les revers de la vie, les revers, l'envers du décor, Vous êtes dans la musique, donc il y a la face A et la face B d'un disque. C'est ça aussi que vous aimez bien, renverser les situations.
Oui, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est de te raconter ce qui ne va pas, de te raconter les choses qui ne marchent pas, les choses qui sont contre-carrées. Par exemple, là où je me suis servi de mon expérience dans le milieu musical, dans Morgane, c'est avec le personnage de Stan Cox, qui est un ancien manager de groupe, qui ensuite qui a commencé sa carrière d'escroc en manageant des groupes, et qui a développé cette carrière et qui a développé ses talents d'escroc sur un plan international, après en s'expatriant à l'étranger. Donc je m'inspire de personnages que j'ai rencontrés et que j'aime bien, parce que même chez les personnages négatifs, sauf Miguel, je vois pas vraiment ce qu'il a d'intéressant, ni Inès, même chose, mais sinon tous les autres personnages qui apparaissent dans mes bouquins, j'ai beaucoup d'affection et de tendresse pour eux.
On peut dire que Miguel et Inès, à eux deux, ça forme un duo d'enfer. Est-ce que vous voulez nous lire un autre extrait, peut-être, de Morgane ?
D'accord.
Pierre Mikhaïlov. Alors, peut-être, justement, l'escroc dont vous parlez, je ne sais pas.
Alors, pas l'escroc dont je parle. Je ne pense pas avoir d'extrait l'escroc. Alors là, je vais aller plus loin dans le roman. C'est un moment où Morgane se retrouve dans le sud, à Argelès, à partager une chambre d'hôtel avec un rock critique qui s'appelle Luc Felder, qui lui aussi est à la recherche de Stan Cox, l'escroc qui a plumé Inès, et qui serait dans le sud de la France, entre Argelès et Perpignan. Et voilà, Morgane s'est téléporté à Argelès pour essayer de retrouver cet escroc et éventuellement Miguel qui est aussi dans les parages. Ça commençait à puer la mort dans cette chambre. Il était temps de tracer. Mais avec la thune qu'il me restait, je n'allais pas aller loin. La solution que j'entrevoyais pour me sortir de ce cloaque était à peine plus réjouissante que de vivre avec ce junkie. Je l'ai laissé à sa nouvelle fiancée, la poudre. Et je suis sorti marcher tout en réfléchissant à ce que j'allais faire. Une fois ma décision prise, j'ai appelé Rulio pour lui faire part de mon projet. « T'es sûr ? » a-t-il insisté après m'avoir écouté. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée. » « Moi non plus, mais je n'ai pas le choix. File-moi le nom de leur camping, sinon je vais mettre des plombes à le trouver. Il n'y a que ça, des campings dans le coin. » J'avais un plan, ni très subtil, ni très glorieux, mais ça valait la peine d'essayer. Pour le réaliser, j'avais besoin de muscles et je savais où en trouver. Je suis remonté dans notre chambre, j'ai rassemblé mes affaires et les ai fourrées dans mon sac de voyage. Quand je suis parti, Felder était toujours affalé sur le lit, ses écouteurs sur les oreilles, en train de planer. Avec ses Ray-Ban aviateurs qui cachaient son regard, je ne distinguais pas s'il était éveillé. À tout hasard, je lui ai quand même fait mes adieux, question de savoir vivre. « Bon voyage, connard !» Donc là, on voit que c'est un autre amant de Morgane et qu'elle a toujours aussi peu de chance avec dans ses relations amoureuses.
Oui. Alors, c'est vrai que vous avez l'art du portrait. Hein, toujours aussi au sujet de Felder. Son statut d'ancien combattant du grunge me fascinait. Il était assez vieux, entre 40 et 50 ans, je dirais, mais bien conservé. Longue crinière, poivre et sel, taille svelte, blouson de cuir et Levi's déchiré au genou façon Iggy Pop. C'était un authentique représentant d'une espèce en voie de disparition, le rock critique qui vit son trip au premier degré. Une fois apprivoisé, l'animal était plutôt sympa.
Oui, Luc Felder, c'est un personnage qu'on peut croiser dans la réalité. Hein. S'il en reste de ce genre de rock critique, pas trop rouillé, avec toujours le perfecto, le jean déchiré, et qui continue à croire qu'ils sont encore dans les années 80. C'est un personnage que j'aime bien aussi, et puis que là, c'est aussi un mélange de personnages que j'ai pu croiser. Par contre, j'ai pas mis beaucoup de moi-même, hein, je vous rassure, dans le personnage de Luc Felder, qui c'est un personnage que va apprivoiser aussi Morgane. Au départ, il est assez réticent. Elle le contacte sur Facebook, il se demande ce que veut une petite adolescente de 19 ans ou jeune adulte de 19 ans qu'il contacte. Pourquoi ? il est un peu ennuyé par ce presque harcèlement de Morgane. Et finalement, ils vont partir dans un road trip, et puis un road trip amoureux même dans le sud de la France pour essayer de remettre la main sur Stan Cox.
Oui, voilà. Alors, elle dit, je vivais un rêve éveillé, lancé sur la piste d'un escroc international aux côtés d'un rock critique plus vrai que nature. Ça, c'est plein d'humour. Et puis, le portrait de Stan Cox, c'est pas mal du tout. Mais revenons à Stan Cox, que je ne connaissais qu'à travers de vieilles photos. Felder affirmait que je n'aurais aucun mal à le reconnaître. Les années n'avaient pas réussi à altérer son visage poupon. C'était d'ailleurs grâce à son allure de jeune homme de bonne famille qu'il avait réussi ses coups les plus risqués. À l'écouter, ce type était une sorte de Dorian Gray du 21e siècle. Dans ce cas, le portrait en pied qu'il cachait dans son grenier devait être gratiné. Voilà. Donc ça, c'est... Il y a plein de portraits. Vous avez vraiment l'art du portrait, Pierre Mikhaïlov. Et puis, il y a le mot de la fin. Est-ce que je peux le dire, le dernier paragraphe? Est-ce que je peux le lire ou pas? Parce qu'il y a des fois, des auteurs, ils n'aiment pas du tout qu'on lise leur dernier paragraphe.
Bah, écoutez, oui, allez-y. Je ne me souviens pas exactement de son libellé, mais allez-y.
Alors, après avoir médité sur la condition humaine, mais pas trop longtemps, car il avait des courses à faire, Cosque se rendit dans une librairie et acheta une méthode de langue français-espagnole. Ce pays présentait des opportunités pour un homme entreprenant. Et vous finissez sur une fin ouverte. Est-ce que la fin d'un roman est aussi importante que le début? Est-ce que la phrase de départ est importante pour vous? Est-ce que retomber sur ses jambes de romancier, c'est important aussi?
Oui, bah je pense, oui. Toutes les phrases sont importantes, hein, même les phrases qui sont au milieu du livre. Mais c'est vrai que j'aime bien commencer sur une phrase qui va intriguer, attirer, puis terminer sur une phrase peut-être ouverte, qui va laisser la porte ouverte, ou par une note d'humour. Et ça, c'est quelque chose que je pratique dans les articles de presse aussi. Je trouve que la dernière phrase de l'article, la conclusion, est importante aussi. Et effectivement, là, c'est un petit peu la fin de Morgane est ouverte, puisque les personnages, en tout cas ceux qui sont encore en vie à la fin du roman, ont des opportunités devant eux. Vont-ils bien utiliser ces opportunités, ces pistes qui s'ouvrent devant eux ou pas? Morgane n'a que 19 ans. Elle a appris des choses, je pense, pendant cette aventure. Elle a rencontré beaucoup de gens. Je pense qu'elle a appris ce qu'on peut apprendre parfois en 10 ans de vie. Ça s'est bousculé en quelques jours, en quelques semaines. Et je pense qu'elle a un bel avenir devant elle, cette Morgane.
Et puis on sent aussi dans vos romans que presque, c'est les deux, hein, c'est des fins ouvertes, comme s'ils s'enchaînaient les uns aux autres. C'est pour ça que je parlais d'un univers, une sorte de cartographie intérieure, Pierre Mikhaïlov. Alors on va passer à l'année du Teckel, que moi j'ai adoré. Voilà ce qu'on peut lire en quatrième de couverture, c'est l'histoire d'un rosbif volé et d'une perruque afro qui tourne au vinaigre. Félix Grossman, journaliste de la presse People, coule une vie paisible jusqu'au jour où il croise chez Martin un ami photographe, un brin jaloux, Enguerrand, et son Teckel Hindenburg, un duo bien encombrant. Et là, tout bascule dans le chaos en quelques jours. Dans un joyeux bazar de quiproquos, gaffes et scènes burlesques, Félix et ses acolytes se retrouvent pourchassés par le raid. La semaine peut enfin commencer. C'est tambour battant, hein. C'est un roman plus un peu plus épais que Morgane, un peu plus touffu, on va dire, avec beaucoup de personnages. Donc là, il y a Félix Grossman, Martin Castelli, Enguerrand, le Teckel, Victorine, alors ça, il fallait l'inventer aussi, Victorine de Montonnerre, et l'inspecteur, non, le brigadier Léa Plume.
Alors là, pour ce roman, en fait, tout est parti de quelque chose que j'ai vécu. Alors, je vous rassure, pas entièrement, pas le roman complètement, mais toutes les premiers chapitres sont des choses que j'ai vécues. Je suis effectivement allé chez un personnage qui ressemble à ce Martin Castelli, sauf qu'il n'était pas photographe. Mais ce qu'il était en train de vivre est ce que je décris dans les premiers chapitres, c'est-à-dire un type qui veut se convaincre tout va bien, mais dont la vie est en train de s'écrouler. Enfin, il est en train de divorcer, de vendre son appartement, il est au chômage, il s'est fait virer d'une boîte dans laquelle il a bossé pendant 25 ans, il a retrouvé une sorte d'emploi ultra précaire et il prétend que tout va bien. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Et il s'est limite, il sifflotait pas pour montrer que tout allait bien et qu'il allait vaincre. Et donc j'étais un peu estomaqué là, d'être dans sa cuisine comme ça, de le voir fanfaronner avec tout ce qu'il me racontait au fur et à mesure. Mais en trouvant ça tout à fait banal et léger. Et arrive un troisième personnage qui se joue à nous, qui était pour moi celui que j'ai appelé Enguerrand, un grand type immense, qui était tout pâle, tout blanc, qui disait pas grand-chose. Et je me demandais un petit peu ce qu'il venait faire là, et c'était le grand, grand pote de celui que j'ai appelé Martin. Et en repensant à ce moment que j'ai vécu avec ces deux énergumènes, un peu plus tard, j'ai commencé à écrire au début une nouvelle. Et puis, les personnages, finalement, m'ont entraîné plus loin. Et puis, j'ai incorporé ce Tekel qui n'était pas là dans la réalité. Et alors, lui, il m'a entraîné encore plus loin et c'est devenu le roman L'année du Tekel. Et effectivement, si j'ai appelé un personnage Martin, c'est parce que à l'époque j'avais lu l'anthologie qui regroupe toutes les nouvelles de Marcel Aimé, et je me suis aperçu que Martin est un personnage qui revient dans quasiment toutes ses nouvelles. Et donc en hommage à Marcel Aimé, j'ai appelé Martin.
Ouais, c'est vrai qu'il y a une dimension de Marcel Aimé. Alors il y a des dialogues absolument épatants. Elle a emmené Hinderburg avec elle. C'est votre fils, le questionnais-je par politesse. Mon Tekel, quel nom étrange pour un Tekel. C'est parce que son corps, en forme de saucisse, évoque. Voilà. Est-ce que vous pourriez peut-être nous lire un extrait du Tekel, tenez.
Alors, un extrait du Tekel. Eh bien, justement, on va parler d'Enguerrand. Restez seul, Enguerrand et moi avons fait connaissance en silence, chacun essayant d'ignorer la présence de l'autre. Silence qui fut rompu par des cris, puis par le bruit d'un objet se fracassant sur le sol. Sa barde, lâchai-je pour meubler la non-conversation. À ma grande surprise, Enguerrand commença une phrase qui le laissa en suspens. La mienne est partie il y a 2 jours. Comme je ne réagissais pas, elle continua. Elle a emmené Hindenburg avec elle. C'est votre fils ? Le questionnais-je par politesse. Mon Tekel. Quel nom étrange pour un Tekel. C'est parce que son corps en forme de saucisse évoque un dirigeable de profil. Il ressemble au Zeppelin du même nom, vous savez, celui qui s'est crashé dans le New Jersey dans les années 30. Il a 3 ans et il est si intelligent, il comprend tout et ce regard. Puis se souvenant qu'il ne l'avait pas vu depuis 48 heures, son expression se figea et il retourna à l'examen de ses pieds. Au bout d'un moment, il marmonna un son en 3 syllabes dans lequel j'ai reconnu le prénom du clébard. Pour ma part, je me demandais ce que pouvait bien foutre Martin. À côté, les cris avaient cessé. J'allais le faire remarquer à Enguerrand quand il se leva et repoussa sa chaise. Je vais m'allonger un moment sur le canapé du salon. Ça m'a fichu un coup de parler de tout ça. Allons, ressaisissez-vous, mon vieux. Votre femme finira bien par revenir. Mais je me fous de ma femme. Cette pensée à Hindenburg qui me colle le bourdon. Il comprend tout, il est si... Ok, allez vous allonger, ça vous fera du bien. Resté seul, j'ai fini par me verser une tasse de Pepsi Max. Je n'ai pas trouvé de verre. Le Pepsi était tiède.
Ça pourrait faire soit une pièce de théâtre, soit un petit film.
Oui, les metteurs en scène, les réalisateurs sont les bienvenus pour discuter de ça, avec plaisir.
Et c'est vrai qu'en plus, le Tekel, c'est un chien personnage emblématique. Il y a vraiment, des années 80, 70.
Oui, mais avec Zoé, l'éditrice, on s'est aperçu en fait que... au moment où le bouquin sortait, on voyait des Tekel partout. C'est devenu extrêmement à la mode. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de mon livre ou grâce à mon livre. C'est l'effet Tekel, en tout cas. Et effectivement, c'est rigolo. Souvent, quand je signe mon livre, je vois passer des gens avec un Tekel sous le bras. Et j'espère toujours qu'ils vont se diriger vers moi et acheter mon livre. Mais ça ce n'est pas toujours le cas. Donc, les possesseurs de Tekel ne sont pas forcément des lecteurs de livres sur les Tekel, malheureusement.
Oui, mais il y a les Tekel à poils. rats et il y a des teckels à poils longs. Je ne sais pas.
Oui, alors celui-ci est à poils rats. Et c'est vrai que je me suis un petit peu documenté sur le teckel pour savoir un petit peu de quoi je parlais. Et c'est un chien qui est petit, mais qui peut se révéler redoutable.
et pour cause. Je crois que dans Morgane, vous ne parlez pas de chihuahua non plus
Non, ça, le chihuahua, c'est aussi dans la teckel, parce qu'un journaliste a confondu Hindenburg avec un chihuahua.
Ah voilà. Ah bah oui, voilà, c'est. Alors, il y a aussi dans l'année du teckel des coups d'œil, des clins d'œil sur justement la presse écrite. Vous parlez du paparazzisme, de la génération argentique. Moi qui suis journaliste, j'avais l'habitude de partir en reportage avec un photographe. On ne peut plus le faire maintenant tellement. Mais vous parlez de toute une époque de la presse.
Oui, alors j'ai un ami photographe qui a vécu cet âge d'or de la presse, qui a travaillé beaucoup dans les années 80. Et encore 90, mais à les années 80, c'était vraiment une période royale où il photographiait pour la presse musicale, puis un peu pour la presse jeune aussi. Et là, c'était perpétuellement des voyages autour du monde, et tout ça payé par soit par les maisons de disques, soit par les journaux, les magazines, enfin l'argent coulait à flot, et les photographes et les journalistes aussi s'amusaient, enfin travaillaient beaucoup, et avaient une vie agréable, en tout cas pleine de découvertes et de voyages, et le personnage de Martin a vécu tout ça à l'époque, et effectivement, il n'est pas très au point sur les nouvelles technologies digitales, et ces photos sont encore souvent à l'état de diapositives ou de négatifs.
C'est ce qui fait son charme. On va faire une petite pause musicale.
J'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver. Ça me prend les jours fériés quand Gisèle clappe dehors. J'aurais pas dû ouvrir à la roquine carmélite. La mère sup m'a vu venir, Dieu avait mis un kilt. Y a dû y avoir des fuites. De l'amour. Mes circuits sont niqués, puis y a un truc qui fait masse. Courant peut plus passer. Non mais t'as vu ce qui passe. Je veux le feuilleton.
Vous êtes bien toujours sur Radio Libertaire, vous écoutez bien évidemment l'émission Bibliomanie. Aujourd'hui en présence de Pierre Mikhaïlov qui vient vous présenter son nouveau roman Morgane qui vient de paraître aux éditions Héliopole dans la collection Littérature et L'année du Teckel qui est paru en 2025 je crois, toujours aux éditions Héliopole dans la collection Littérature. Alors Pierre Mikhaïlov, bon, on évoque l'année du Teckel, on évoque Morgane, vos personnages, votre univers romanesque. Et j'ai bien aimé, moi, c'est l'esprit des lieux, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, j'y reviens parce que il y a un côté Nestor Burma, il y a un côté, oui, on a parlé de Marcel Aimé. Vous dites, par exemple, je crois que ça c'est dans Morgane plutôt. Traverser l'île Saint-Louis me calme toujours les nerfs après une journée pourrie. On pourrait presque croire qu'ici le temps n'a pas de prise. Derrière une de ses façades, Brigitte Fontaine et Areski Belkacem sont peut-être en train d'écrire une chanson, de fumer un joint ou de vider une coupe de champs. Deux vestiges du passé bohème de l'île, autrefois peuplé de peintres, de comédiens, de musiciens. Fait chier d'être né trop tard. Il n'y a pas de nostalgie hein, dans votre univers romanesque, mais il y a des regards, j'allais dire des gros plans sur la poésie de Paris, la poésie des Parisiens.
Mmh. Oui, alors en fait Morgane a 19 ans, mais elle est un petit peu nostalgique de ce qu'elle... croit peut-être à tort avoir été un âge d'or. Et alors, là, vous avez parlé de Brigitte Fontaine et d'Areski. Malheureusement, Areski Belkacem nous a quittés il n'y a pas très longtemps, donc il ne sera plus en train d'écrire des chansons avec Brigitte Fontaine. Mais c'est vrai que Brigitte Fontaine, elle est peut-être la dernière habitante un peu décalée de l'île Saint-Louis, puisqu'elle est là depuis très longtemps, et elle a son petit appartement dans la rue principale qui traverse l'île. Et tout le reste de l'île est malheureusement maintenant... entre les mains de nouveaux Parisiens ou de boutiques un peu de luxe. Donc il n'y a plus du tout ce côté artistique qu'a pu avoir l'île Saint-Louis dans les années après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, années 40, années 50, où Simone Signoret, Yves Montand habitaient sur l'île Saint-Louis. Il y avait des gens comme ça, il y avait des peintres aussi. Il y a des choses qui ont un petit peu disparu. Maintenant, c'est un peu plus ennuyeux, comme beaucoup de quartiers de Paris, malheureusement. C'est pour ça qu'on s'installe en périphérie, à Montreuil, au Pré-Saint-Gervais, dans des endroits plus marrants.
Oui, alors aussi, vous êtes un flâneur, hein, je pense. Hein. Alors, vous nous parlez aussi beaucoup. Alors, le tram, enfin, il y a vraiment... Vous parlez du tram, de la porte de Versailles, du 15e arrondissement, de la rue Danzig, beaucoup, de la rue Olivier de Serres, de la rue Saïda. Il y a des noms de rues qui vous plaisent, on voit que vous avez vécu dans ces rues et que vous avez plaisir à leur redonner vie.
Bah, oui, tout à fait. Puis c'est des rues qui ne sont pas du tout... c'est des rues où on habite. C'est pas des rues touristiques, c'est pas des rues où des touristes japonais ou allemands ou américains vont aller, mais c'est des rues où vivent les Parisiens. Et là, c'est encore un petit peu c'est encore des lieux où il y a des habitats populaires, où il y a des HLM. Donc c'est des lieux que j'aime bien. Puis il y a un marché aussi pas loin de la rue de Danzig sur le boulevard, juste en face de la ligne de tramway. Donc tout ça, ça vit, c'est vivant et c'est ça qui me plaît effectivement. C'est des décors que j'aime utiliser.
Vous êtes un marcheur, si vous faites du vélo?
Alors, bah, les deux, je suis un marcheur et puis je suis aussi un cycliste. Et j'aime bien, en fait, en vélo, je flâne. Je n'essaie pas de battre des records de vitesse, mais je regarde, je jume l'air, je regarde l'ambiance, à quoi ressemblent les gens ce matin, cet après-midi, le soir. J'aime beaucoup faire du vélo la nuit aussi, dans le silence, dans les rues de Paris, arpenter comme ça. Aller. Et puis, je trouve que cette ville, avec tous les défauts qu'elle a, reste magnifique, reste poétique. Je veux dire qu'une balade dans Paris la nuit sur les quais de Seine, ça reste magique avec ses lumières électriques, avec toute cette ambiance, avec la Seine, ça reste complètement magique. Et c'est gratuit. Je veux dire, on peut être sans argent et profiter de tout ça. Ça reste magique à Paris.
Alors, pour revenir au personnage donc de l'année du Teckel, le Philippe Grossman, est-ce qu'il n'est pas un peu libertaire, lui, réfractaire au vote? Voilà. Alors, voilà ce qu'il est. Consciencieusement, à chaque élection, je donnais ma voix à un parti qui recueillait entre 0,5 et 1% des suffrages. Judith avait depuis longtemps redansé à me convaincre de voter utile. Je dirais que votre personnage ne vote pas utile. Mais il s'en fout de l'utilité.
Bah oui, il a des convictions. Il a des convictions, donc il vote pour ce parti qui n'a pas beaucoup de voix à chaque élection et qui n'a jamais d'élu. Mais il, voilà, et Judith, en fait, cette fille dont il est amoureux sans vraiment s'en rendre compte, et vice versa, c'est son ami de très longue date, essaie de le convaincre de voter utile, de voter toujours dans cette même direction, ouais. Mais au moins avec des gens qui auront quelques élus. Mais ça marche pas trop.
On a l'impression que lui, c'est un ennemi du rentable, du consommable, du jetable. C'est un flâneur de l'existence. Et puis là, c'est alors lui aussi, parce que son ami là qui lui ramène le teckel, mais c'est des catastrophes en série, quoi. Ils enchaînent tout. Le brigadier La Plume, enfin, ça fallait. Il faut quand même que vous en parliez de celui-là.
Un petit extrait sur le brigadier La Plume qui n'est pas vraiment une flèche. Hein. alors, où est-ce qu'il apparaît, ce petit brigadier La Plume? Voilà. Alors. Là, il est en train de faire une sorte de... Il est en mission. La cage d'escalier dégageait des effluves de soupe, de ragoût et de sauce non identifiées. Il était près de 22 heures et La Plume entamait son second HLM. Il s'apprêtait à consulter son listing quand il se souvint où il avait déjà vu ce visage. Cette moustache noire et cette chevelure frisée croisée dans l'escalier du numéro 60 figuraient sur un avis de recherche. Aucun doute possible, leur propriétaire était le terroriste international Carlos Carmona, un expert en explosifs. Et il n'était sûrement pas venu à Paris pour faire du tourisme. Fort heureusement, par réflexe, avant de quitter l'immeuble, il avait ouvert et refermé la porte du hall pour simuler son départ, puis tendant l'oreille, avait repéré l'étage où se rendait le suspect. Il rangea son listing et rentra en trombe au commissariat, tremblant, rétrospectivement à l'idée d'avoir frôlé la mort. Et je peux peut-être vous lire un autre extrait où on va avoir une autre facette de ce pauvre brigadier La Plume. Le capitaine Merrill ne se remettait pas de sa surprise. Il s'attendait à tout, sauf à un exploit de ce genre de la part de l'irrécupérable crétin qui se tenait devant lui. « Ça m'étonne de toi, La Plume, mais je reconnais que tu as fait du bon boulot. Qui aurait imaginé que Carlos Carmona se cachait à Paris ? J'ai prévenu la section antiterroriste, mais le RAID ne pourra pas intervenir avant demain matin aux aurores. Évidemment, tu veux en être. Et c'est bien normal. Je vais intercéder en ta faveur. J'ai fait mes classes avec la patronne du RAID. D'autre part, le capitaine s'arrêta, songeant à la tante de La Plume, qui se trouvait être la femme du sous-préfet d'Indre-et-Loire, département où il possédait une fermette qu'il souhaitait agrémenter d'une piscine. Un petit coup de pouce administratif pouvait accélérer la délivrance du permis de construire. Leur relation devait partir sur de nouvelles bases. Par le passé, il m'est arrivé d'avoir des mots un peu durs envers toi. Les mots, comme tu le sais, dépassent souvent la pensée et je fais partie de ceux qui croient que sous la couche de fumier, la rose ne demande qu'à éclore. De même que le brigadier mal noté n'attend qu'un coup de pied au cul du destin pour inscrire son nom au tableau d'honneur. Il semblerait que pour toi ce jour soit arrivé. La Plume n'écoutait plus le capitaine qui se piquait de poésie à 16 heures. Il avait seulement retenu qu'il allait devoir se lever aux aurores, se déguiser en samouraï et se joindre à ses fêlés du raid. Et il n'avait pas envie de ça.
Oui, parce que bon, on va pas dire la suite, mais c'est ça tient du carnaval, ça tient. Enfin, puis chacun, vous décrivez finalement chaque microcosme, l'ampleur que prend un petit événement de départ qui prend une dimension considérable. C'est un peu comme le jeu de domino, Pierre Mikhaïlov. Alors moi, je voudrais un peu connaître aussi les coulisses de l'écriture pour vous. Comment écrivez-vous ? D'abord, quand avez-vous commencé à écrire donc des nouvelles ? Ça, on l'en a dit, mais comment écrivez-vous ? Est-ce que vous avez des petits carnets ? Est-ce que vous écrivez directement sur ordinateur ? Est-ce que vous êtes...
Alors, j'écris directement sur ordinateur pour gagner du temps, et puis parce que j'adore revenir sur ce que j'ai écrit, changer un mot, déplacer une virgule, déplacer une phrase. Donc ça c'est tellement pratique et tellement rapide sur un ordinateur. Et puis la deuxième chose que j'utilise, c'est mon téléphone. Quand je suis pas en face de mon ordinateur, c'est mon téléphone et la fonction note de mon téléphone, et je note des idées que je peux avoir N'importe où. N'importe où ailleurs, en dehors de mon poste de travail où j'écris.
D'accord. Et est-ce que vous êtes un écrivain du jour, de la nuit ?
Bah écoutez, plutôt du jour et de la nuit. Alors la nuit, c'est pour prendre des notes. Quand une illumination comme ça, un éclair me traverse au milieu de la nuit, je prends mon téléphone et je le note dessus. Sinon, j'écris dans la journée, voilà, dans la journée.
Est-ce que vous vous relisez beaucoup ?
Bah écoutez, oui, je me relis beaucoup. Parce qu'on n'arrête pas d'améliorer le texte à chaque repassage, à chaque retour, et on remarque des défauts qu'on n'a pas aperçus. À un moment donné, on va avoir une petite faute d'attention, on va un petit peu relâcher sa vigilance et laisser passer, ou un peu de fatigue, un peu de lassitude, et on laisse passer des choses qu'on ne laisse pas passer si on y revient le lendemain matin, l'esprit bien frais. Donc là, c'est... Je sais que je pourrais reprendre chacun de mes livres et le réécrire, pas totalement, mais retrouver des choses que j'aurais envie d'améliorer. C'est sans fin. C'est comme un peintre qui retouche sa toile jusqu'à ce qu'un client vienne l'acheter et lui arracher. Mais sinon, on a toujours envie de retoucher, de finir, de polisser encore jusqu'à l'ultime version. Mais il n'y a pas d'ultime version.
Est-ce que vous relisez vos livres une fois imprimés, enfin une fois ils sont parus, ils sont en librairie, ou est-ce que vous faites partie de ces écrivains Pierre Mikhaïlov qui, une fois que le livre est en librairie, laissent vivre leurs enfants ?
Non, bah en fait j'en ai relu peu, mais parce que j'aime beaucoup lire les autres, donc je suis pas égocentrique au point de ne lire que mes livres. Mais récemment j'ai relu mon premier roman qui s'appelait Tournée d'adieu. Et j'ai trouvé ça pas mal. Il était paru peut-être en 2007 ou 2008, je ne sais plus. Et j'ai trouvé ça pas mal. Et j'aimerais bien en relire d'autres, mais j'ai toujours un bouquin qui vient de me tomber entre les mains, que j'ai envie de lire. Mais c'est vrai que je trouve ça intéressant. En fait, c'est un autre moi. C'est un bouquin que j'ai écrit il y a 20 ans. Il n'a pas été écrit par Pierre Mikhaïlov en 2026. C'est un autre Pierre, en fait. J'ai l'impression de découvrir, comme si j'avais un petit frère qui avait écrit un bouquin il y a 20 ans et que je n'écrirais plus de cette façon. Et ça m'amuse de voir ce que pensait ce petit frère, là, il y a 20 ans, ce personnage qui avait 20 ans d'expérience de moins qu'aujourd'hui et qui écrivait de telle ou telle façon. Donc c'est un voyage assez intéressant de se relire, je trouve.
Est-ce que vous écrivez en silence, en musique ?
Alors en silence, parce que lorsque j'écoute de la musique, je ne fais que ça, parce que pour moi c'est important. Et lorsque j'écris, je ne peux pas avoir l'attention attirée par autre chose que mon écran et puis les idées que j'essaie de sortir de ma petite tête.
Est-ce que vous écrivez d'une façon linéaire ou alors vous avez besoin de... Vous faites partie des auteurs qui construisent, qui déconstruisent un récit, qui le reconstruisent, ou est-ce que vous aimez bien écrire, que ça suive une sorte de forme de linéarité du récit ?
Alors, moi je laisse... dans les derniers livres que j'ai écrits, je laisse les personnages... m'entraîner, je les suis, et il y a presque une logique dans leur caractère. Je pense que si leur caractère est assez bien défini, ils vont d'eux-mêmes agir d'une certaine façon. Ça devient plus facile. Alors en fait, moi je suis du genre à ne pas lâcher l'os que je suis en train de ronger tant que je suis pas satisfait. Donc je quand j'écris un bouquin, je fais que ça. Alors de temps en temps je m'interromps pour faire pour rendre des articles de presse, mais sinon quand j'écris un bouquin je vais jusqu'au bout. Il y a des bouquins que j'ai pas réussi à faire publier, je pense que j'y reviendrai, je les retravaillerai après les avoir laissés reposer, mais sinon lorsque je suis en train d'écrire un livre je vais jusqu'au bout. Je dirais pas que je le déconstruis. Si j'ai une idée de départ que j'estime bonne, je vais l'amener à son terme, mais si au bout de, je sais pas, 50-60 pages, je m'aperçois que je suis dans une impasse, c'est que l'idée de départ n'était pas suffisamment bonne pour prolonger le récit. Donc ouais. Là, je laisse tomber.
Est-ce que vous faites des repérages ? J'ai parlé de votre amour de Paris, de votre côté flâneur. Est-ce que vous faites des repérages quand vous écrivez, ou est-ce que c'est tout de mémoire, ça vient, que ce soit les personnages que vous, construisez, ou les rues, enfin, ça vient, vous aimez bien écrire de mémoire.
Alors, pour les quartiers que j'ai abordés dans Morgane et dans la Lutéquelle, c'est de mémoire, parce que j'y ai vécu, j'y ai traîné beaucoup. Pour Tournée d'adieu qui se passe dans le premier arrondissement de Paris, là je m'étais baladé et j'avais pris des photos de lieux où l'histoire allait se dérouler, et là j'avais fait beaucoup de repérages. Donc il y a les deux cas, soit de mémoire, soit je fais des photos, et après chez moi devant mon ordinateur, pour me remettre bien dans l'ambiance, je regarde ces photos et puis j'essaie d'imaginer mes personnages dans ces lieux.
Vous utilisez un fameux moteur de recherche, on voit les rues, on peut être immergé, vous savez, on peut marcher dans les rues via l'écran.
Ouais, je fais ça aussi sur Google, je sais plus comment ça s'appelle, Google Maps, pour voir exactement le numéro des immeubles que je vais utiliser. Là, j'ai pas en mémoire les numéros exacts des immeubles, donc là, je vais sur Google Maps et je regarde, le numéro 60 de la rue de Danzig, ok, c'est là que Félix habite, voilà, des choses comme ça.
Est-ce que vous faites des fiches de personnages ?
Alors, je l'ai fait pour certains personnages, même des fiches assez, assez longues. Je le fais un petit peu, ouais, je le fais un peu. Ouais. Savoir quel âge ils ont, quels sont leurs goûts, éventuellement leur religion, leur position politique, leur orientation sexuelle, voilà, des fiches signalétiques comme ça. Ouais. Ou des fois, quand les personnages sont déjà, arrivent presque tout fait, comme en Guérin, je visualisais tellement. Là, pour des personnages comme ça, j'ai pas besoin de fiches.
Ouais. Est-ce que vous pouvez écrire plusieurs, travailler sur plusieurs manuscrits à la fois ?
Alors, ça dépend ce que vous entendez par travailler à la fois sur plusieurs manuscrits, mais c'est vrai que non, en même temps, non. Mais je sais que là, en ce moment, là, j'ai terminé un roman. Et je sais que je ne vais pas rester... J'ai l'impression que c'est un muscle qu'il faut toujours entretenir, l'écriture. Donc là, je vais continuer à écrire sur une autre idée que j'avais commencé à travailler il y a quelques mois. Et je vais revenir dessus, mais c'est jamais deux choses en parallèle. C'est jamais deux romans en parallèle. Là, je pense que ça devient un peu schizophrénique.
Est-ce que, alors là, dans l'année du Teckel, j'ai remarqué qu'il y a il y a à la fois des textes écrits à la première personne du singulier et de textes écrits à la troisième personne du singulier aussi. Est-ce que vous aimez bien, est-ce que le rythme, le changement de rythme est important pour vous ?
Oui, effectivement, là, il y a des scènes qui sont écrites par le narrateur. Et puis, il y a tout ce que le narrateur ne voit pas, qui se passe un petit peu derrière son dos, qui est à la troisième personne. Et donc, j'aime bien différencier les points de vue, parce que de rester toujours sur un narrateur omniscient à la première personne, ça peut être un peu lassant au bout d'un moment, mais intéressant aussi. Mais j'aime bien varier les ambiances et les points de vue.
Oui, c'est ça, on le voit là, dans l'année du Teckel, ça change souvent, hein, c'est comme une sorte de manège, ça change de point de vue, ça vous repartez, puis il y a des rebondissements, l'art du rebondissement. Quels sont vos écrivains préférés ? On a un peu évoqué ça, Pierre Mikhaïlov, mais quels sont pour vous, actuellement, quels sont vos écrivains qui sont pour vous très importants ?
Il y en a beaucoup, beaucoup, donc je vous ai déjà parlé de Pirandello, l'italien. Il y a Tchekhov aussi que j'aime énormément, qui est aussi un auteur de nouvelles, un grand grand nouvelliste qui a écrit des centaines de nouvelles pour gagner sa vie, puis un grand grand dramaturge. Et puis il y a un auteur aussi que j'ai relu il y a pas longtemps, qui écrit beaucoup de nouvelles, c'est Turgenev, aussi un auteur russe, et qui est très touchant parce qu'il raconte ses journées passées à chasser, mais en fait il s'arrête toujours dans des villages et il décrit les petites gens, les serfs, tous ces gens qui vivent de rien, qui sont maltraités par des propriétaires terriens. Et il y a cette écriture que je trouve très belle, très poétique. Et sinon, comme je vous le disais, j'ai lu tout Bukowski, tout ce qui est publié, même des choses inédites en France, encore pas, non traduites. J'ai beaucoup lu Bukowski. Philippe K. Dick aussi, je suis assez amateur de science-fiction. Et puis de polar aussi. Il y a un auteur de polar que j'aime beaucoup qui est Ross MacDonald. Les grands classiques, hein, du polar que j'ai lu à une époque, les Dashiell Hammett, les Chandler. Je recommence à lire Modiano. J'ai beaucoup lu Modiano à une époque. Et puis là, je le relis et je le redécouvre avec le recul du temps, avec ce que j'ai lu entre-temps. Et j'ai une nouvelle lecture sur Modiano qui est vachement intéressante et où je le replace à nouveau très haut dans ma hiérarchie.
Oui, Modiano, c'est Paris hein, aussi, c'est la mémoire. Ouais. La mémoire, c'est important aussi pour vous. On sent que vos personnages, Pierre Mikhaïlov, c'est un peu des laissés pour compte ou des gens qui sont... c'est une génération aussi, c'est une certaine génération.
Oui, et puis c'est des gens qui ne sont pas des carriéristes, ça vous avez dû le remarquer. Autant, on parlait de Félix qui travaille dans la presse People. On ne sait pas ce qu'il fout dans la presse People, ça ne correspond pas du tout à son caractère. Donc on se retrouve parfois placé comme ça dans des situations où on n'est pas à sa place, on n'est pas à notre place et où, bah, il faut faire avec parce qu'on n'a pas le choix. C'est un petit peu le cas de Félix. Et est-ce qu'ils sont dans la nostalgie? Je ne sais pas. Je pense que c'est avant tout ce qui les caractérise pour la plupart, c'est qu'ils sont là plus pour s'amuser que pour faire carrière dans quoi que ce soit. C'est pour prendre... Ils ont une certaine philosophie de la vie, c'est de prendre les choses... comme elles viennent, et puis d'essayer de fréquenter des gens qui sont fréquentables, avec qui on passe des bons moments, et je crois que c'est la seule chose qui compte finalement à l'arrivée, c'est d'avoir ce genre de bons souvenirs, de belles rencontres.
Oui, c'est aussi beaucoup d'infréquentables, c'est ça qui fait le charme aussi de vos romans, Pierre Mikhaïlov. Et oui, il y a un peu de tout, mais on sent qu'il joue le jeu de la vie, voilà, il joue le jeu de la vie, et que c'est une génération, vous savez, le fameux CDI, CDD, bah eux, ils sont toujours en CDD.
Ah, ils sont en CDD en permanence, c'est un CDD à vie, effectivement. C'est comme ça que j'ai toujours vécu, personnellement. Le CDI m'a toujours fait peur, et j'ai dû en signer peut-être à l'essai une fois, mais c'est tout, et je suis parti très vite au bout de la fin des 3 mois. Je préfère être open, ouvert à tout. Tout peut se produire, je reste ouvert aux propositions, donc c'est dans ces cas-là, il vaut mieux ne pas signer de CDI.
Ouais. Pas de laisse pour reprendre la truc du Tekel. Vous êtes le biographe attitré de Bachung. En quoi cette rencontre était, enfin voilà, en quoi Bachung a été important pour vous?
Alors pas attitré parce qu'il y a d'autres auteurs qui ont écrit sur Bachung, hein. Mais Bachung a été important parce que pour moi c'était il représente une époque, quand je l'ai découvert, c'était la fin des années 70, c'est la fin des années Giscard, et il était une voix un peu différente, qui était la voix d'un loser aussi, parce qu'à la fin des années 70, on ne sait pas trop s'il marchera un jour, c'est l'éternel recommencement, à chaque fois il sort un album qui ne marche pas, qui attire quelques oreilles un peu attentives, un peu curieuses, mais pas le grand public. Et il a ce très bel album qui sort en 79, qui est son deuxième 33 tours, et qui est vraiment qui représente la fin de la décennie 70, le début de quelque chose, mais on ne sait pas trop ce que nous réservent les années 80. Et il est là au carrefour de sa vie, de sa carrière et de son époque. Et l'année d'après, il va sortir Gabi. Et là, l'éternel espoir trentenaire qui sort des disques depuis les années 60 va enfin connaître le succès du grand public. Et donc, moi, je me souviens de... À chaque fois que j'entendais cette petite intro au saxophone de Gabi à la radio, j'avais le sourire, j'avais la pêche. Et Gainsbourg... Pardon, c'est vrai que c'est le grand frère finalement de Bachung, c'est Gainsbourg, et d'ailleurs ils feront un album ensemble après. Et quand sort l'album Pizza, vraiment l'album de la consécration en 1981, c'est un album qui va faire tout mon été, que je vais écouter en boucle sur une cassette. Et Bachung va m'accompagner, et ensuite il va se lancer dans des expériences musicales assez, assez fascinantes, juste après Pizza. En déconstruisant complètement son succès et en faisant une musique beaucoup plus expérimentale. Et puis après cet album incroyable avec Gainsbourg, enfin c'est un personnage qui m'a toujours fasciné. J'ai pas toujours accroché au premier abord, à la première écoute à ses albums, parce que certains sont difficiles, mais au final j'arrive toujours à comprendre ce qu'il a voulu, enfin je pense que je comprends ce qu'il a voulu faire, et ça finit toujours par me parler.
Et en plus c'est une voix qui sort du bitume. Bachung, il a une voix qui sort comme ça du... Alors ma dernière question, je sais que vous aimez bien les liens avec vos lecteurs, vous avez animé des ateliers d'écriture, alors ça vous a plu comme expérience? Est-ce que vous animez encore des ateliers d'écriture? Voilà, je voudrais que vous me parliez un peu de ça. Ma dernière question.
Alors, je l'ai fait parce qu'on m'a proposé de le faire, donc je l'ai fait en milieu scolaire, dans des collèges, et en fait, c'est assez difficile parce que tous les élèves n'ont pas forcément envie de jouer le jeu. Dans certains collèges, oui. Souvent, dans les classes où il y a plus de filles, il y a plus d'attrait pour la littérature et pour l'écriture, et il y a plus de plaisir à tenter l'expérience. Donc, c'est un boulot assez difficile d'animer ces ateliers auprès des gens assez jeunes, qui sont secondes, en général en seconde, ou même en troisième parfois. Et c'est assez difficile de les motiver à l'écriture parce qu'ils ne lisent pas forcément tous. Et il faut essayer de leur faire comprendre que c'est un jeu, qu'on ne va pas les noter, que ce n'est pas un travail scolaire, que c'est pour le plaisir, et d'essayer de les amener à trouver du plaisir dans l'écriture en racontant une histoire. Alors ce qui est génial, c'est qu'il y en a qui sont complètement pris au jeu et qui, je sais qu'ils vont continuer après à écrire parce qu'ils ont trouvé, ils se sont éclatés dans cette expérience. Donc c'est assez long, c'est beaucoup de travail pour les motiver. Mais quand finalement on sent que la petite étincelle est allumée, c'est un grand moment de plaisir.
Transmettre aussi, c'est important pour vous. Est-ce que vous êtes changé après chaque roman? Est-ce que vous avez l'impression que le roman vous métamorphose?
Alors je ne sais pas si je suis métamorphosé, mais je sais qu'à chaque fois j'ai appris quelque chose, et je pense que le prochain à chaque fois va être différent, et avec j'espère à chaque fois un peu moins de défauts.
En tous les cas, merci à vous Pierre Mikhaïlov.
Merci beaucoup à vous Valère.
Et oui, l'émission Bibliomanie se termine, mais par la magie du podcast, vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site de Radio Libertaire. Vous pouvez aller aussi en librairie et vous procurer d'autres titres de Pierre Mikhaïlov, lire notamment certaines de ses biographies comme Gainsbourg confidentiel, Les mille et une vies de l'homme à la tête de chou, disponible en point seuil, ou bien encore Jeanne Birkin, Citizen Kane, publié en 2010 chez Alphée, ou enfin Bachung, Vertige de la vie, publié en Archipoche, la collection de poches des éditions L'Archipel. Pierre Mikhaïlov est un homme orchestre qui connaît bien la musique et qui sait, comme nul autre, partager ses partitions sentimentales. Merci de votre écoute et à la fois prochaine.
D'un désespoir si haut que la douleur farouche, affolé en personne, orne ta ronde bouche. Malgré tes pleurs glacés d'un sourire de deuil, s'évade en passant par le toit. On dit que la Guyane est une terre chaude. Ne chante pas ce soir les costauds de la lune. Gamin d'or, sois plutôt princesse d'une tour, rêvant mélancolique à notre pauvre amour. Ou sois le mousse blond qui veille à la grand'une. Il descend vers le soir pour chanter sur le pont, parmi les matelots à genoux et nu-tête. L'Ave Maristella. Chaque marin tient prête sa verge qui bondit dans sa main de fripon. Et c'est pourtant manché, beau mousse d'aventure, qu'ils bandent sous leur froc les matelots musclés.
Mon amour, voleras-tu les clés qui m'ouvriront le ciel où tremble la mâture? D'où tu sèmes royal les blancs enchantements? Ces neiges sur mon page en ma prison muette, l'épouvante les morts dans les fleurs de violette. La mort avec ses coques, ses fantômes d'amour. Sur ses pieds de velours passe un garde qui rôde. Repose en mes yeux creux le souvenir de toi. Il se peut qu'on s'évade en passant par le toit. Que la Guyane est une terre chaude.
mes côtés, j'ai pas su la retenir.